I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello à tous, je suis avec Yannick Fadbert, un des deux boss, président, comment on dit, directeur.
Ouais, co-directeur de tournoi.
Co-directeur du tournoi de Montreux, le Hell Spirit Open. Il y a du lourd à raconter sur Yannick, puisqu'il a coaché pendant 7 ans l'ami Stan Wawrinka. Que tu as emmené de la 15e à la 3e place mondiale. Vous avez gagné les grands chelems ensemble, dont Roland Garros. Donc je voulais qu'on fasse une parenthèse sur cette expérience absolument incroyable et que tu fasses le lien évidemment sur ton tournoi Montreux pour faire la promotion, puisque je suis aussi là pour ça. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment vous êtes rapproché avec Stan, comment l'expérience s'est lancée?
Alors j'ai commencé comme sparring parce que je m'entraînais de temps en temps avec lui. Son premier coach de l'époque avait demandé que je tape avec lui de temps en temps. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on s'est bien entendu. Et quand il s'était séparé de son entraîneur et qu'il avait à un moment donné personne, pas de coach, il m'avait demandé de l'aider pendant une préparation hivernale. 2011-12 je crois, ou 12-13,
il a quel âge à ce moment-là?
Il était déjà bien implanté, il avait déjà fait une incursion en top 10, ensuite il était redescendu top 15, top 20 en tout cas. Il devait avoir dans les 25 ans,
okay.
26 ans, ouais, quelque chose comme ça.
Ouais, donc mature.
Et puis ouais, déjà, c'était déjà, c'est un super joueur, donc moi je suis vraiment rentré là. Moi je lui ai demandé d'ailleurs, qu'est-ce que t'attends de moi quoi, en gros, parce que c'est vrai que au début moi j'avais jamais aucune expérience dans le coaching à ce niveau-là, donc j'étais entraîneur de jeunes, etc. Mais c'est clair que c'était un métier complètement différent qui s'ouvre à moi. Donc voilà, j'ai commencé par une période en hiver, 3-4 semaines, peut-être même un peu plus long d'ailleurs, et puis ensuite pendant l'année qui a suivi, quand il venait en Suisse, on se voyait, je l'entraînais un petit peu, et petit à petit voilà, j'ai pris un peu mes marques. Et j'ai fait aussi un peu plus en plus de tournois avec. Et voilà comment l'histoire a commencé.
Et vous étiez potes de base?
On était potes de base.
C'est peut-être aussi pour ça que tu as fait confiance, parce qu'il est réputé pour être un peu. Voilà, pour pas forcément ouvrir la porte à n'importe qui.
Ouais, je pense qu'il avait senti qu'on s'entendait bien, que j'étais discret, j'étais humble. Je pense que c'est aussi des caractéristiques que lui a et qu'il cherche dans son entourage. Il sentait que j'étais sérieux, je suis toujours venu, voilà, c'est des conneries, hein, mais je venais à l'heure, j'essayais de préparer mes séances, et puis j'étais toujours taquet, quoi, que ce soit comme pour jouer avec lui que pour préparer une séance. Donc je me suis laissé guider dans un premier temps, lui il me disait vraiment, allez, je vais faire ça, et puis petit à petit, il me demandait mon avis, je donnais le mien, et puis il y a une relation de confiance qui se construit tout simplement.
En tout cas, j'ai du lourd là en bougeant parce qu'après Séverin hier, j'ai toi avec Stan. Donc on enchaîne sur le coaching suisse, si je puis dire. T'étais parti sur combien de semaines avec lui au départ?
Au départ, on n'avait pas vraiment défini. C'était vraiment, voilà, il y a la préparation hivernale plus quelques semaines quand il rentrait en Suisse. À ce moment-là, il avait Séverin, que tu as eu hier, l'aider aussi en parallèle de Roger. Donc, tu entends des sessions communes, etc. Étant donné qu'il était capitaine de Coupe Davis, qu'il est toujours d'ailleurs, Séverin. Donc, ils avaient cette relation par rapport à ça. Donc, il l'aidait aussi un petit peu. Et il y avait toujours un petit peu la discussion d'un autre coach qui était Magnus Norman, qui est venu, j'aurais dit, 6 mois après dans l'aventure.
Ah, c'était
ouais,
rapide.
C'était très rapide, je pense, en juin. Moi, je me souviens, j'ai fait le tournoi d'Estoril, Cascais avec lui. Et là, il venait de faire un test avec Magnus d'une semaine ou deux en Suisse. Et puis, apparemment, ça s'était très bien passé. Il gagne Estoril, d'ailleurs, derrière,
ouais,
en jouant déjà un super niveau. Et puis, voilà. Donc, puis très vite, ça a commencé. C'était très vite compatible parce que Magnus ne voulait pas forcément faire du plein temps. Donc, ça me laissait ma place.
Ouais.
Et pour moi, c'était idéal aussi parce que je travaille aussi en Suisse. Donc, je pouvais faire un peu une sorte de parallèle de moitié-moitié, en gros. Et puis voilà.
Tu rêvais de circuit, toi? cette époque-là ?
Non, non, même pas forcément. J'en rêvais comme tout le monde, mais j'avais pas forcément conscience. Alors, c'est pas vrai, parce que j'ai commencé avec Timur Bajinski parce que j'avais fait coach assistant de l'équipe de Fed Cup en Suisse. Ouais. Ça, c'est aussi une partie que j'ai oublié de raconter. Et j'étais parti avec Pat Schneider et Timéa en Fed Cup, on jouait en Israël.
À Tilly Gaucher.
Du coup, Timéa, qui avait son coach qui voulait voyager un petit peu moins, m'avait demandé si j'étais prêt et dispo à faire quelques semaines avec elle. Donc j'avais dit oui, j'avais fait Doha, j'avais fait Indian Wells, et puis un tournoi au Bahamas entre les deux. Et c'est aussi là, du coup, j'ai rencontré Robustam dans le tournoi, qui lui était encore avec son coach à l'époque. Donc c'était un peu, je dirais, le premier lien où je dis, ah bah le gars, il peut voyager aussi, visiblement, parce que j'étais avec Stam. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc j'avais un peu goûté avec Timéa au coaching, mais disons que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé forcément. Un peu comme quand j'étais joueur, j'avais pas forcément envisagé de gagner Roland un jour. Donc, voilà.
Pour le rappel, t'as été 1002
voilà, exactement. À ton max. J'espérais, je me dis ah mais bon voilà.
Elle devient quoi Patty finalement?
Je sais pas.
Perdu de vue.
Elle jouait très très bien à cette époque. Hein. Elle était top 10, après elle a redescendu un peu, mais c'était quand même une joueuse incroyablement talentueuse.
Ouais.
Elle me mettait une grosse pression, je me souviens, quand je tapais avec, parce qu'elle voulait vraiment telle qualité de balle, pas ça, pas ci. Donc c'était assez intéressant. Mais on apprend, parce que finalement tous ces joueurs, ils sont exigeants, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis quand on est en face, il faut deliver.
J'ai fait sparring ce matin avec une Bélorusse, Yana. Heureusement qu'elle n'était pas trop regardante sur la qualité de balle, parce que parfois, 3 mois d'affilée, c'est un peu chaud.
C'est ça. Quand c'est avant les matchs, qu'il y a de la tension, qu'ils ont envie de se régler, voilà, il faut être là.
Premier moment incroyable vécu, émotion forte avec Stan, dans votre collaboration, c'était lequel ?
Alors c'est clair qu'on pense toujours au résultat, on pense toujours au tournoi, etc. C'est clair quand on gagnait. Je crois que le story, c'était le premier tournoi que où j'étais avec pendant toute la semaine qu'on gagne. Et c'était c'est clair, une grosse émotion. Après, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. C'était aussi pendant les sessions d'entraînement avec d'autres grands joueurs que je voyais d'un coup de près. Et je voyais une qualité de tennis. Parce que Stan, comme tous ces joueurs, ils sont capables, en fait, quand ils veulent, quand ils sont motivés, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Mmh. Typiquement, je crois que la première fois que j'ai joué avec lui, quand je faisais sparring, je crois que j'avais gagné 7. Parce que je sens qu'il joue à 50%. Quoi.
Et c'est qui les gars, du coup, en face qui tombent.
Bah là, tout d'un coup, ils sont en train avec Ferrer. Et Ferrer, à l'époque, c'est 5 mondiales, c'est bien en place. Donc là, on sent tout de suite que le gars, il enclenche la vitesse supérieure. Et puis là, c'est plus le même sport, c'est plus le même niveau. Et là, on se dit, bon, ok, c'est ça, un mec top 10, top 15. Et c'est aussi là que j'ai réalisé à quel point il pouvait être fort. Quoi. Mmh. Parce que je trouvais que des fois, on s'en rend pas toujours compte. Et quand tout d'un coup, il était capable de mettre cette vitesse supplémentaire, là, on se disait, ok, le gars, en fait, il peut défoncer tout le monde quand il joue bien. Donc ça, on ressentait déjà un petit peu ses prémices. Il n'était pas encore prêt, il manquait des choses, mais potentiel était différent.
Les Ferrer, tu disais c'est monstrueux, mais qui n'ont pas une balle.
Ouais, et puis surtout de la régularité, on s'entraînait beaucoup souvent avec, et chaque fois c'était la même intensité, c'était la même envie, la même énergie qui se développe. Et du coup ça se transmet. Moi j'adorais organiser l'entraînement avec lui, parce que Stan, je savais qu'il allait produire un niveau de tennis extraordinaire, parce qu'il s'acclimatait en fait au gars en face.
Et un ou deux autres noms où tu as eu une émotion avec les...
Alors c'était un peu plus tard, mais il y a eu les Novak, forcément incroyable, parce que Stan adorait le jeu de Novak, donc il se faisait des sessions de deux croisés en ligne où ça ratait pas, où ça j'ai 8000 à l'heure. Et là c'est vrai que c'est des moments où tu dis bon bah là tu sers à rien parce que tu es en dehors et tu es spectateur, et tu dis bon bah ça
merci.
c'est génial. Et ça c'est cool parce que voilà, c'est aussi l'aboutissement du travail qui est fait, et tout d'un coup il ressort contre ces joueurs-là à l'entraînement, et quelques semaines plus tard, ou quelques mois après, en match aussi.
Ouais, génial. Sam Sumit, coach assez connu sur la scène féminine, disait que le coaching c'était comme une relation amoureuse.
Ouais.
Au début c'est lune de miel, et après c'est apprendre à réussir, apprendre à gérer la merdasse. À quel moment vous allez gérer la merdasse avec Stan, et quel type de merdasse?
Alors,
s'il y en a eu.
Ouais, il y en a toujours. Après, on est deux coachs. Je pense que c'est aussi bien, parce que finalement, on peut échanger. Par contre, on se sent plus fort de dire quelque chose parce qu'on a aussi le feedback et le ressenti de l'autre qui se dit ouais, moi je pense la même chose, etc.
C'est-à-dire que tu as attendu 8 mois que Norman et Magnus soient dans la team.
Ouais, non, parce qu'au début, j'étais pas vraiment à 100%. En plus de ça, j'étais encore dans une position, je dirais, où. j'étais plus à sonder, à observer, et à temps en temps donner quelque chose. C'était pas encore du conflit. En plus de ça, dans une dynamique de relation, effectivement, t'as jamais ce problème. Et normalement, le joueur il se défonce toujours parce que c'est le début, parce qu'il veut montrer, parce que.
Okay.
Je pense que le début c'est toujours relativement facile des deux côtés.
D'accord.
Autant du coach, parce que mine de rien, pour le coach, il y a aussi une routine qui s'installe.
Ouais.
Et au début, tu l'as pas. Et pour les joueurs, c'est pareil. Donc je pense qu'effectivement, après, c'est comment tu évolues, comment chacun évolue, comment à quel point tu es capable de toujours dire les choses, pas cacher, pas. Dire ouais bon ça je lui dis pas parce que je pense que ça pourrait ne pas passer. Non, à un moment donné c'est peut-être aussi un peu ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'on se disait moins les choses et ben du coup c'est pour ça que ça s'est aussi effrité quoi.
Et tu peux nous confier une première embrouille, une première friction mais de laquelle vous avez appris un truc quoi, tu vois. C'est comme il est encore en carrière, c'est un peu touchy.
Non, je crois pas. Après, on n'a jamais eu de grosses embrouilles. C'était vraiment des discussions où on disait ce qu'on pensait. Parfois, okay. On est d'accord, parfois pas. De toute façon, en tant que coach, tu dois aussi sentir les moments, je pense. Il y a des moments où tu sais que tu ne dis pas, parce que ça, tu sais que ça apportera rien.
Ouais.
D'autres moments, tu sais que c'est le moment d'en parler. Normalement, les deux sont calmes, les deux sont lucides. Donc, typiquement, après une défaite, ça arrive de sauter dessus ou quoi que ce soit. Donc, tu en parles, tu discutes, mais peut-être le lendemain. Une fois que lui a aussi fait son débrief, son feedback, une fois, je me souviens, c'était à chaud, c'était à Madrid, il jouait contre Benoît, et il me gueulait dessus non-stop, il me demandait des conseils, genre où je sers, et puis voilà, du coup, c'était un peu chaud, il était hyper tendu, et puis là, il pleut, le toit se ferme, mais là, je me souviens que dans les vestiaires, on s'était engueulé, enfin, moi, j'ai dit, non, c'est pas possible, il me répond un peu violemment, et derrière, il fait sa préparation, de réchauffement et puis il repart avec le sourire, il fait un clin d'œil et là il était reparti.
Okay.
Et donc ça avait maturé. Alors ça a duré qu'un set malheureusement, il fait un super deuxième set, le troisième c'était recommencé un peu à les travers. Mais
voilà, il a battu.
Benoît a battu Astan à ce match-là. Et ouais, c'est des choses comme ça qui se passent et qui sont tout à fait normales. Quoi. Je pense que ça fait partie des. Il faut qu'il y ait ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, si tu ne peux pas dire parce que tu as peur ça ne marche pas. Quoi.
Donc, vous avez gagné ces trois grands chelems ensemble ?
Oui, alors moi, j'étais pas toujours avec parce qu'on se relayait de nouveau.
Ouais.
Par exemple, l'Australie, moi, j'avais fait la préparation. Il y avait une exhibition à l'époque à Abu Dhabi.
Ouais.
Et puis après, j'avais enchaîné avec Chennai qui avait gagné, je crois aussi, juste en 2014. Et puis après, moi, je rentrais. C'est Magnus qui partait pour l'Australie. Donc, je l'ai gagné avec parce qu'on était dans la période où je bossais avec, mais là j'étais pas sur place.
Toi,
voilà.
j'étais Roland
sur place. Ouais.
Et l'US
j'étais sur place. Non, l'US, j'avais fait aussi pareil le tournoi d'avant à Toronto et j'ai pas
rentré. Juste avant de parler en Roland, est-ce que c'est vrai cette légende où il est allé chercher Magnus qui ne voulait plus forcément voyager sur le circuit, qui avait pris un peu de recul et c'est lui.
Oui.
Qui était allé, qui l'a relancé et tout pour qu'il fasse partie de la team.
Alors c'était avant, hein, ça c'était au tout début effectivement. Ouais. Je crois que Magnus avait eu l'expérience avec Söderling et puis après pendant un moment il voulait plus forcément coacher.
Okay.
Et puis effectivement, je crois qu'ils l'ont relancé plusieurs fois pour qu'il accepte. Magnus a dit ok bon je fais une semaine d'essai. Et je crois qu'on va se faire laisser, ça a matché. Quoi.
Magnus qui a été deux mondiaux,
c'est
ça
ouais, deux mondiaux.
Double finaliste à Roland.
C'est ça, c'est sa grosse carrière aussi, énorme coach.
Comment tu as vécu la collaboration avec ce monstre?
Bah génial, je crois que...
C'est un mec humble et tout. Hein.
Ouais, c'est un gars qui est facile. Il m'a laissé ma place comme coach, je dirais coach équivalent de lui, ce que j'étais pas. Mais il m'a mis à ce niveau-là et puis du coup c'est énorme parce que tu partages, tu peux dire aussi ce que tu penses. Il m'a pas cantonné un rôle d'exécutant où finalement il dit bon bah toi tu fais ça quand je suis pas là. Et quand il était pas là, j'avais quelques contacts avec, mais il me disait pas du tout quoi travailler quoi. Donc ouais non, c'était super simple, super agréable. C'est un mec incroyable. Ouais, c'était vraiment.
Quand il fait sparring, ça avance encore la boîte.
Ouais. C'est lourd. Quoi.
C'est
lourd. Ouais. Très lourd. Et il est ultra sérieux, ultra travailleur. C'est un mec qui s'entraînait à l'époque 6 heures par jour. C'est plus le gars plutôt qu'il faut vous dire attends, peut-être que maintenant il faut faire un peu moins de volume parce que lui il a toujours envie de pousser. Et puis voilà, et puis c'était parfait match pour
ça. Génial. Il y a deux écoles de sur les podcasts, sur le coaching, qu'il y en a qui disent avoir deux coachs, c'est pas ça la entre guillemets vraie manière de faire, c'est un mec qui est tout le temps là, qui se connaît par cœur, et on peut pas se relayer, machin. Et t'en as de plus en plus, comme à la All-In Tennis Academy, où il tourne. Toi c'était plus toi, ta manière de faire.
À l'époque je crois que c'était moi. Clair, il y avait un mec, déjà parce qu'il y avait moins moyens, donc il y avait un coach, et le coach faisait tout, il faisait même physio, il faisait préparateur physique, il faisait psy,
la voilà. Bouffe,
ouais, le cordage. Et après, les moyens se sont développés, les teams se sont agrandis, les coachs aussi ont tout d'un coup voulu aussi avoir quelque part une vie un peu à côté, donc c'est aussi quand même plus simple d'avoir une autre activité à côté et de faire 25 semaines que de faire 50 semaines.
Ouais. Plus de fraîcheur mentale.
Après, je suis d'accord, parfois c'est dur, c'est typiquement si moi je faisais 2 ou 3 semaines pas avec Stan.
Et de revenir, ouais.
De revenir, ça me prenait 1-2 jours,
d'accord.
Souvent, pour me remettre dedans, pour me dire ah, putain, qu'est-ce qu'on travaillait, qu'est-ce que.
Et là, il peut le sentir avec le même dans la gueule,
non, je crois pas. En tout cas, ça s'est jamais passé à la rigueur. Voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire que tu sais pas, tu refais pas des exercices que tu sais, qu'il aime bien, etc. Mais. Ouais, ça prenait un petit peu de temps de faire le switch, mais je pense que, en tout cas à ce niveau-là, au point où il était dans sa carrière, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que c'est intéressant. Lui, je crois qu'il aimait aussi le côté. Magnus était très carré, très pointilleux, très bileux sur les détails, un peu comme Stan. Moi, j'ai amené peut-être un côté un peu plus olé olé, mais finalement un peu plus relâché, ou finalement. C'est pas grave si ce détail-là, on l'a pas mis. Alors, j'ai beaucoup appris à me perfectionner, à aller au bout de moi-même.
Ouais.
Quelque chose qui m'a clairement manqué quand j'étais joueur et qui m'a beaucoup appris en tant que coach. Mais je pense que j'ai aussi amené un petit peu ce côté plus relâché. Et on a le droit aussi de se marrer un petit peu à l'entraînement, etc. Et voilà, je pense que ce mix des deux lui convenait bien.
T'as quand même été, t'as quand même eu des points ATP. Donc quoi, ouais, et tu joues. Ça n'existe plus, mais moins 30, on va dire, français. Et quand tu voyais Stan passer la seconde, la troisième et la quatrième, qu'est-ce qui t'impressionnait le plus dans son jeu? Où est-ce que tu te disais, ah ouais, là, ça n'est pas, on n'est pas sur la même planète, on comprenne vraiment.
Ouais, c'est en termes de lourdeur et de frappe, quoi. Moi, je me souviens d'exercices à la main, où je donne une balle à la main, donc qui va à 0 km/h.
Ouais.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Qu'il est capable d'envoyer un truc que moi je suis pas capable, alors que la balle vient à 120 déjà, tu vois, je dis là, il est capable de générer de la vitesse sur une balle morte de façon tellement propre et tellement puissante sans dégager d'effort.
Ouais.
Et après quand on est en face, alors c'est clair qu'au début que j'ai commencé avec lui, je jouais encore régulièrement, donc mon niveau est encore correct. Mais c'est clair que si tout d'un coup il passait la deuxième, puis qu'il mettait les jambes et l'intensité, tout d'un coup ma frappe, je sentais qu'il n'y en avait plus de propre quelque part, tu vois.
Parce que t'étais dépassé, quoi.
Parce que t'es en retard, parce que alors tu t'arrives à la mettre dedans, mais ça avance pas, etc. Ouais. Donc tu sens finalement que le gars, quand il veut faire le point gagnant, il fait le point gagnant, tu vois. Donc il y a ce côté-là quand même, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément. Moi j'ai joué des mecs jusqu'à 300-400 mondiales, c'était rare de voir ça.
D'accord.
Après, c'est sa spécificité à lui. Hein. Après, je pense qu'il y a un mec comme Ferrer, peut-être je me serais mis en face, je me dirais, ah, ben, finalement,
je la tiens.
Ouais. Par contre, tu gagnes 0 jeu la même chose parce que tu la tiens jamais autant que lui.
Ouais.
Mais par contre, tu te sens moins ridicule. Avec ça, je pense que tu as le moyen, comme avec Rog, tu as le moyen de te sentir ridicule parce que en une frappe, il te fait plier, Rog, parce qu'il te fait des amortis marchands. Enfin, voilà, tu vois. C'est quand même assez. C'est un côté. Tu sens que ça sort de la norme.
Où est-ce que tu sentais à contrario qu'il pouvait que progresser?
Mentalement, je pense que c'est une partie où il a fait que progresser durant toute sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être pas confiant en tennis comme peut l'être un Federer, typiquement.
Ouais.
Donc il a besoin d'expériences positives, il a besoin de pas seulement de victoire, mais il a besoin de sentir à l'entraînement que ça progresse, il a besoin de passer les marches en fait, les unes après les autres pour sentir sa confiance grandir en même temps. Donc parfois il pouvait des fois jouer hyper bien un tournoi, puis le prochain tournoi on sentait qu'on recommençait presque de zéro quoi. Il fallait reconstruire cette confiance, les premiers entraînements, les premiers matchs. Alors que voilà, c'est des choses que peut-être d'autres ont la facilité d'enchaîner. Et après, bah, comme tout le monde, je crois, quand on manque de confiance, quand on devient hésitant, tout d'un coup il fait des fautes et sa puissance du coup lui dessert. Parce que moi des fois je peux taper toutes mes forces alors que je tape la balle derrière, ma balle elle va rentrer. Lui elle sort de 3,50 m. Il a une telle puissance que sa balle elle va lui échapper, donc il va avoir le sentiment que ça vole, il va avoir le sentiment de ne pas contrôler. Et c'est horrible ce sentiment-là. Donc ça crée du stress, ça crée de la crispation, et quand on se crispe, bah, ça sort encore plus, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux comme ça. Et c'est pour ça que parfois on voit ces joueurs qui ont beaucoup de puissance faire des grosses fautes. Hein. On voit des Tsonga qui est aussi un peu dans ce genre de registre.
Ouais. T'es devenu pote un peu avec Rodge du fait de côtoyer ce.
Non, parce que je ne l'ai pas vu non plus tout le temps. Après, quelques fois que je l'ai vu, il a été incroyablement sympa, incroyablement facile d'accès, il m'a toujours mis à l'aise. Donc, je pense que clairement ça pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais être pote, mais après je ne vais pas dire que c'est un pote parce que j'ai vu quelques fois.
Bon, on va terminer par une partie évidemment qui nous, français slash francophones, nous parle tous. De toucher la coupe de Roland-Garros dans le vestiaire après le titre. Déjà, la finale d'être dans le box, c'était contre Djoko.
C'était Djoko, ouais.
Ouais, match de fou.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter l'émotion vécue d'un tel titre?
Bah, c'est,
les images partagées. Ouais.
C'était un enchaînement en plus parce qu'il y avait eu 2014 Australie, moi j'y étais pas, et il y a eu cette finale où Nadal s'était blessé après un 7,5. Alors c'était un 7,5 où Stan était largement meilleur, mais il y avait des mauvaises langues qui disaient quand même bon, Nadal a été blessé, etc. Et là finalement c'était le tournoi où il met tout le monde d'accord, et ça a été incroyablement kiffant parce que on sentait son niveau de jeu quand même qui montait, il avait produit des matchs hallucinants déjà toute l'année. Et puis à Roland, ça a fait que de monter quoi. Et cette finale, il joue un niveau de jeu très vite quand même, très très bon.
Ouais, il se met dedans.
Mais il fait un jeu un peu moins bien, bam, il perd 6-4. Et là on se dit, putain c'est frustrant parce qu'on sent qu'il peut le faire. Mais en même temps, bah, il le perd. Forcément, tu as peur, t'es Djoko en face, tu te dis, bon, ouais, merde, ça va faire 3 fois comme ça.
Alors attends, juste en arrivant au début de la finale, tu t'installes dans le box. Est-ce que tu te dis, ok, là,
on y est.
Là,
bon, du coup, on avait déjà fait quelques box, mais c'est vrai que oui. Après, on est assez loin du joueur parce qu'il y a en fait des loges devant, notamment, je pense, à Patrick Boyle, etc., qui est devant. Donc il y a une sorte de loge, donc on rentre, et après, il y a le joueur, donc finalement, il est assez loin. Mais oui, c'est clair, Nelson Monfort qui a demandé les noms des gens dans la boxe. Moi, Nelson Monfort, j'ai déjà 10 ans à
Nelson. Bobby, c'est son surnom.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Je l'ai eu au micro.
Okay. Ah oui, c'est pour nous, sa voix, son style d'interview, c'est quelque chose. C'est Roland, pour moi, c'est Roland. Donc, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui me fait rire. Et la préparation des gens dans les vestiaires, voir ses vestiaires, enfin, voilà, c'est un moment incroyable, quoi. Et donc voilà, ce match se déroule un peu comme ça. Et je me souviens de 3-2. Je me souviens de. C'est 3-2 pour Stan, je crois. Et il y a un point crucial, quoi, 15 partout, tout comme ça. Et Djoko joue pas une balle en se disant elle va être 3 mètres. Hein. Et finalement, la balle, elle sort de ça. Et puis on sent qu'il a tellement envie de la voir sortir qu'il se dit putain, je la joue pas. Puis d'un coup, il dit merde, il faut que je la joue. Bon, finalement, elle est out.
Ouais.
Et je me suis dit oula, c'est pas le signe, c'est un mec serein.
Ouais. Ouais,
un mec serein, il l'aurait joué comme si c'était normal. Et je lui dis ah, et effectivement, ça a été comme ça. Et Stan est monté en puissance. Et Djoko sentait le monstre en face venir. Et je crois que ça l'a crispé plus en plus. Et puis Stan a dit après, sur notre planète. Ouais, et là, on sent qu'il peut. Alors, tu te dis bon, la conclusion, on peut toucher les pieds parce que voilà, gagner un titre c'est quelque chose, mais on avait l'impression qu'il pouvait rien lui arriver.
Et toi à ce moment-là, t'as vu trop de matchs pour t'emballer ou t'as quand même le cœur qui bat à 20 000 et t'essayes de pas le montrer?
Ouais, ah non, je dirais pendant le match, tu t'emballes pas parce que le match est encore en cours.
Ouais.
Le match est en cours, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu as des up and down, tu as des moments où tu dis putain, il va le faire. Le coup d'après, tu dis. Comme le joueur, j'imagine peut-être que Stan ne l'avait pas à ce moment-là parce qu'il était tellement dans la zone qu'il était dans le présent en fait. Et nous, coach, on se doit finalement de faire un peu la même chose. Quoi.
Ouais.
Moi, je me souviens, j'avais des trucs, tu comprends au montage, des superstitions. Où je me disais, putain, si je pense déjà à la finale, il va se faire remonter. Enfin, tu vois, donc tu te mets finalement dans le même mode que le joueur à dire non, attends, c'est maintenant, il n'y a que 2-7 à 1, il n'y a que ça. Mais en tout cas, où moi j'étais hyper soulagé, c'est que très vite on sentait qu'il allait produire un niveau de tennis magnifique et que ça allait de toute façon un match incroyable. Je crois qu'à partir de ce moment, toute la team, on avait déjà gagné quelque part. On était quand même les outsiders. Et je pense que Stan, c'est pareil. À partir du moment où il sent qu'il se sent bien, qu'il est heureux d'être sur le terrain, qu'il va produire un magnifique match, que la foule va être heureuse, je pense que lui, derrière, il se relâche. Quoi. Et puis c'est ça qui fait qu'il peut produire un tennis comme ça.
La balle de match, t'en souviens ?
Pas de match, c'est fou là, je crois qu'on était tellement déjà en transe. Je crois qu'il remet. Non, il remet un revers long ligne, incroyable. Il me semble qu'il remet un revers long ligne à 8 000 à l'heure. Il me semble que c'était une balle de match, une belle balle de match en plus.
Et la délivrance, la collade, tout ça, t'as les images qui te sont restées ?
Oui, ça, c'est... après c'est un peu flou. Il y a toute une partie un peu flou, mais oui, je pense qu'après voilà, il monte dans les tribunes, toute la famille. Non, c'était un moment.
Et dans les vestiaires alors raconte, il ramène la coupe et comment ça se passe ?
Après, il y a un moment toujours un peu calme où tu redescends, tu réalises ce qui s'est passé, tu t'assieds, il y a des moments où il n'y a personne. Forcément, tout le monde dit ah, bravo, tu t'hésites avec le coach, tu attends qu'il revienne. Stan, c'est pas un exubérant, c'est pas le gars qui va arriver en dansant puis en hurlant dans les vestiaires. Donc, mais voilà, c'est une énorme délivrance et puis tout le monde est juste heureux et relâché. Et puis, voilà, je te réjouis de la fête après.
Et à ce moment-là, tu te dis quoi ? Fierté de ouf ? Tu te dis, je peux mourir tranquille ?
Ouais, je crois que j'étais... Alors, en tant que coach, je crois que tu mets quand même tout sur le joueur. J'étais fier pour lui, j'étais heureux pour lui parce que c'était quelque chose qu'il méritait, qu'il avait tellement... C'est un gars qui a tellement bossé dans sa carrière et que peu de monde avait prévu ça, tu vois. Et c'est quelque chose, tu te dis, bon, ce gars, voilà... Il a fait quand même quelque chose d'incroyable dans cette génération de Djoko, de Federer et Nadal. Ce mec est arrivé, il s'en est tiré 3 des grands chelems, alors qu'il y avait eu plein de prétendants. Quoi. Et ça, j'étais vraiment fier pour lui parce que c'était quelque chose d'incroyable. Après moi, oui, bien sûr, je me dis j'ai mis ma pierre à l'édifice, mais le gars qui l'a réalisé, c'est lui.
Quand tu dis tellement bossé, tout à l'heure tu nous disais Ferrer qui s'envoyait des... Non, Norman. Qui s'envoyait des 6 heures par jour. Bah, en comparaison, Stan, c'était quoi ? Tu dis énormément bossé.
Bah, alors avec le temps, je pense que moi, j'ai pas connu ces périodes quand il avait 15 ans et 20 ans. Je crois qu'il a fait aussi ses 5-6 heures par jour, hein, comme presque tout le monde.
Ouais.
Après, avec les années, à la fin surtout, on commence à moins faire parce que forcément, le corps ne tient pas. Donc à un moment donné, il faut être intelligent et savoir qu'en faire. Par contre, c'est pas que les heures que tu fais sur le terrain, c'est la préparation, c'est l'avant, c'est des gars qui rêvent tennis, qui sont tout le temps là-dedans et qui sont tellement perfectionnistes tout au long de leur carrière qu'au final c'est un travail de jour et nuit. Et même si après il joue 2 heures sur le terrain, mais en même temps, avant ces 2 heures sur le terrain, il va s'échauffer 30 minutes à fond. Tu sens le gars avec les yeux il est là, il est dedans, il est dans son échauffement, il n'est pas à faire à moitié deux élastiques, il s'arrête, puis il part, il est dedans. Cette qualité-là qu'il a mis, je crois qu'il l'a quand même mise dans l'année. C'est probablement un des mecs qui arrive à la mettre dans l'année, toute l'année, de façon régulière. On voyait souvent en début d'année, tout le monde est hyper sérieux. Quand tu vas en Australie, les premiers mois, ils sont tous au taquet, ils sont tous dans la salle des gym, ils n'ont pas une machine.
Ouais.
Par contre, tu vas en juillet, les machines sont plus vides, tu vois, les mecs ils font plus de stretching.
C'est énorme.
Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où lui, bah voilà. Bien sûr qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, où tu le fais pas, ou moins bien parce que tu es humain et tu peux pas. Mais sur l'année, je pense que globalement, c'est quand même des gars qui est un des plus rigoureux, j'imagine, qui a ce circuit. Après, je ne connais pas les coulisses de tous les joueurs, tu vois, mais mais tu sens quand même que voilà, c'est un gars qui bosse.
Et avec Magnus, c'est un truc qui vous lie entre guillemets à jamais. Enfin, tu te sens scellé un peu de par l'aventure humaine vécue, ou quoi qu'il arrive, la vie prend le relais et puis tu passes à autre chose et basta.
Bah, je pense qu'on est scellé à vie dans le sens où chaque fois qu'on va se revoir, que ça soit avec Magnus, avec Stan, avec tout le monde, en fait, on a quand même, on aura toujours ce passé commun avec tous les gens qui ont transité dans cette magnifique histoire. Après, ça, voilà, on n'a pas forcément des contacts quotidiens. Mmh. Je sais que si on se voit, on va être super heureux de se revoir, et puis on va être super heureux de boire un coup et puis, ouais, puis de discuter.
Si tu as trouvé un stage à ta fille en Suède, il va faire d'autres textos, ouais. C'est bon.
Exactement.
Et Stan, pareil, la relation, comment s'est terminée d'ailleurs?
Ça s'est terminé en 2019.
Numéro 3 mondial, non?
Non, là, il a eu sa blessure en genou. Très dure blessure. Une blessure qui a fait aussi que il a pu voyager pendant longtemps. Et du coup, Magnus, pendant un moment aussi, a fait une pause parce qu'il a dit qu'il ne souhaitait pas recommencer à voyager, étant donné qu'il avait fait ce break. Donc, du coup, pendant un moment, j'étais seul avec Stan. Puis c'était une période assez difficile, pas évidente à gérer pour moi, autant pour lui, j'imagine. Il se pose aussi beaucoup de questions. Et puis là, j'ai senti que c'était un peu le début des moments où je sentais plus trop quand lui dire les choses, quand pas dire, quand je devais me la boucler. Un peu comme une sorte de confiance qui était rompue, ou comme une confiance qui était un peu mise en parenthèse. Et puis nous, entraîneurs, on est comme les joueurs. Quand on perd confiance, on devient moins bon aussi, quoi.
Ouais.
Parce qu'on hésite, parce qu'on dit peut-être les choses au bon moment, parce que voilà. Et donc petit à petit, j'ai un peu senti que ça venait un peu progressivement comme ça. Et puis voilà, on a été manger en fin d'année une fois, et puis voilà, écoute, j'ai envie de prendre un autre tournant. Et puis voilà, ça fait partie de la. Ça fait partie d'une carrière. Hein,
c'était dur pour toi ou quoi?
Bah, c'était dur forcément parce qu'il avait déjà 35, 34 ans, quelque chose comme ça. Donc je m'étais dit forcément on va probablement finir la carrière ensemble. Parce que c'était peut-être une erreur aussi de ma part finalement. Parce que peut-être que d'un coup j'ai moins d'énergie, je sais pas. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui était une erreur. Mais du coup oui, parce que tu dis bon ben voilà, moi ma carrière on aura bien, je me voyais la finir avec lui. Mais en même temps, je me suis dit bon ben c'est probablement qu'il a besoin d'autre chose, ce que je comprends tout à fait, et j'espérais que cette nouvelle autre chose puisse de nouveau l'aider à remonter aussi haut qu'il l'était. Et puis après, je dirais aussi honnêtement, très bon côté d'être coach à circuit, en termes de stabilité, en termes de, voilà, de programme tout simplement, tu peux moins voyager. Quoi, ceci. Donc j'ai pris le côté positif comme toujours, et puis je me suis dit bon bah. Aussi du positif.
Et tu t'es lancé dans des beaux projets comme l'organisation du tournoi dans lequel.
Exactement. Comme on faisait déjà à l'époque, hein, quand j'étais avec Stan encore, je faisais déjà. Mais voilà, c'est aussi des choses, j'avais des projets à côté que je faisais déjà et qu'ils étaient pendant un moment, ben, je les ai organisés presque seul. Quand je n'étais pas là, tu n'étais pas en contact, c'est pas la même chose, donc j'avais pas la même présence.
Tolérant le match.
Tolérant, il s'est battu, hein, il l'a fait, et puis ben, c'est aussi là la complémentarité pendant qu'on parlait dans l'autre podcast, c'est que quand il y en a un qui est moins là, l'autre prend le relais. Voilà. Donc c'était aussi des côtés positifs de ça, c'est que voilà, je pouvais m'investir plus et on a pu vraiment plus développer aussi les choses parce que j'étais nouveau de retour.
Top. Vous veniez taper avec Stan sur le montreau
en fait. Non, je crois qu'on est venu une fois, il a tapé une fois ici, mais autrement, non, lui il habite plutôt vers Genève, donc on est plutôt à Genève.
Yes. Où est-ce que tu veux l'emmener ce tournoi ici avec Benjamin?
On veut l'emmener plus haut, c'est clair. On ne sait pas encore comment.
C'est quoi, c'est 100 000 ou c'est 80 000?
Ouais, c'est 80. Ou déjà, comme on disait, plus H. 60 000 plus H, avec hébergement, c'est le projet, je dirais, concret pour nous. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de réalisable. Maintenant, on verra. Est-ce que ça vaut, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de monter vraiment une catégorie au-dessus? Après, il faut trouver des dates aussi, c'est pas évident. Et puis forcément, l'air de la guerre, toujours, il faut trouver de l'argent. Mais je pense qu'on a besoin aussi de chaque fois fixer les trucs qu'on peut encore améliorer pour vraiment faire un événement 100% pro. Je pense qu'on est à 90% pro et 90%. Et qu'on peut encore améliorer des choses. Et puis c'est ça aussi qu'on doit maintenant mettre de l'énergie dessus.
Ouais. Vous envoyez un WhatsApp de temps en temps, etc.
Ouais, de temps en temps, pas extrêmement souvent en fait. De temps en temps, moi j'ai toujours content de suivre ses matchs aussi à la télé, je regarde toujours à chaque fois que je peux. Et puis voilà, j'espère qu'il a encore eu d'autres blessures hein, après. Donc voilà, maintenant ça semble derrière lui ses blessures, mais maintenant voilà, il faut construire le mental, reconstruire le physique aussi, et puis ça prend du temps, donc j'espère que
c'est bien. Hyper tôt à Monte-Carlo, là je vois ses stories de temps en temps, il poste, il est déjà une story, il est 7h du mat avec son café. Hein. Il te prenait à la fraîche comme ça aussi.
Ouais, moi je me souviens qu'on avait fait des préparations en hiver parce qu'il n'y avait pas de terrain. Et... même pour Stan, des fois il n'y a pas de terrain, hein, donc il y a les membres qui jouent, etc. Donc, et comme il n'y avait jamais de terrain, on faisait des sessions de 7 à 9 ou de 8 à 10.
C'est bon ça. Ouais,
c'est comme ça, hein, lui il n'a jamais de problème à se lever.
Incroyable, c'est beau. On a tout dit, je crois.
Ouais, on a fait le tour. Hein. Merci.
Merci Yannick,
bon tournoi.
Et à la prochaine.
À bientôt.
Ciao les gars.